VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Il est 16h en temps universel, 18h à Bujumbura. Bienvenue à l'écoute de ce journal. Cap d'emblée sur le Burundi, bien évidemment. Le président du pays, Pierre Nkurunziza, sorti victorieux d'une tentative de coup d'État, a rejoint ce vendredi après-midi son palais présidentiel dans la capitale burundaise. D'après l'AFP, le chef de l'État a été accueilli par ses partisans dans le quartier de Kamenge, un fief du parti au pouvoir, deux jours après le lancement de la tentative de coup d'État par le général Godefroy Niyombare, dont le sort demeure incertain. Un porte-parole de la présidence burundaise avait annoncé son arrestation, mais d'autres sources dans la capitale rapportent qu'il serait toujours en cavale dans la matinée. Toutefois, trois autres généraux impliqués dans ce putsch avorté avaient été interpellés. Jean-Roger Billon.
Parmi les officiers arrêtés figurent un général de police et deux généraux d'armée, dont l'ancien ministre de la Défense Cyril Ndayikuriye. Pierre Nkurunziza est rentré au Burundi jeudi, quelques heures après une déclaration du chef d'état-major de l'armée faisant état de l'échec du coup d'état fomenté la veille. Une foule était massée sur la route pour le féliciter et chanter des chansons à sa gloire, selon l'AFP, citant la radio nationale à la mi-journée. Le chef de l'État a finalement quitté Ngozi sans s'exprimer. Des proches avaient affirmé un peu plus tôt qu'il s'adresserait depuis sa ville natale aux Burundais dans une allocution retransmise par la radio et la télévision nationale burundaise. Selon l'entourage du chef de l'État, il est toujours prévu qu'il s'exprime ce vendredi. Pendant ce temps, des manifestations d'opposition à un troisième mandat de Pierre Nkurunziza ont repris ce même vendredi à Bujumbura, la police tirant à l'air pour disperser les contestataires, quelques heures à peine après l'échec de la tentative de coup d'État. Un journaliste de l'AFP a vu la police disperser à coups de tir de sommation des centaines de manifestants dans les rues du quartier périphérique de Musaga, dans le sud de Bujumbura, rassemblés par groupes de quelques dizaines autour de barricades.
Oui, nous venons de l'entendre, le coup d'État a donc échoué à Bujumbura. Le pouvoir burundais a tremblé mais n'a pas vacillé. Que faut-il attendre des prochaines semaines et notamment des élections? Nicolas Pineau a joint Thierry Vercoulon d'International Crisis Group.
Il y a une très très grande peur à Bujumbura en ce moment. Donc il est très difficile de prédire ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Mais je crois qu'un des éléments importants va être de savoir si l'opposition va reprendre ces manifestations de rue contre la candidature du président Nkurunziza ou si au contraire elle va faire maintenant profil bas.
Pourquoi ce coup d'État n'a pas marché selon vous ?
Ce coup d'État n'a pas marché pour, à mon avis, deux raisons. La première, c'est évidemment que les putschistes n'ont pas réussi à rallier assez d'unités militaires derrière eux. La population et l'opposition qui manifestaient à Bujumbura depuis trois semaines n'ont pas rejoint le mouvement également. Ils n'ont pas pris, si je puis dire, la rue à Bujumbura.
Thierry Vercoulon d'International Crisis Group, jointe à Nairobi. Et évidemment, nous suivons sur notre antenne cette grosse actualité burundaise pour vous. Ailleurs, en Afrique, au Nigeria, au moins 55 civils ont été tués dans des attaques menées par Boko Haram dans deux villages du nord-est du pays cette semaine. D'après des habitants et un représentant d'une milice locale d'autodéfense que cite l'AFP, de nombreux insurgés lourdement armés ont tenté d'attaquer Maïdougouri, la plus grande ville du nord-est, mercredi soir. Mais ils ont pu être repoussés par les soldats d'une caserne non loin, d'après l'armée et des habitants. Au Mali, signature d'un accord de paix hautement protocolaire à Bamako ce vendredi devant plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains. Mais absence de la rébellion à dominante Touareg qui réclame des pourparlers supplémentaires. Accord qui vise à instaurer une paix durable dans le nord du pays et qui a été paraphé hier à Alger, au bout de deux mois et demi de pression et d'atermoiement, la coordination des mouvements de la Zawad a prévenu hier qu'elle ne viendrait pas le signer. Au même moment, à Ménaka, des combats se poursuivent. Kassim Traoré.
Le Mali, le groupe d'autodéfense se réunit au sein de la plateforme, les pays de la médiation, la France, vont signer l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Une grande cérémonie qui réunit 10 chefs d'État africains parmi lesquels Robert Mugabe, président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame du Rwanda et l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara. La coordination du mouvement de l'Azawad a envoyé ses représentants à cette cérémonie, mais ils ne vont pas signer le document, même s'ils ont donné. La CMA demande la réouverture des négociations. Pour la communauté internationale, cela n'est pas possible, mais toutefois, les portes de la signature leur seront ouvertes. Pour bon nombre de Maliens, la signature de cet accord doit être synonyme de paix. Mais tel ne sera pas le cas, car les groupes d'autodéfense ont été attaqués ce matin à Menaka par les hommes de la CMA. Ça s'est passé dans la localité de Tine Fatima, située à 65 km de Menaka, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Plusieurs centres d'accueil vont ouvrir au Niger, étape importante pour les immigrés clandestins africains afin de les dissuader de poursuivre leur route vers l'Europe en leur proposant des alternatives économiques sur place. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi à Niamey le ministre français de l'Intérieur. D'après l'AFP, les centres que l'Union européenne se propose de mettre en place dans le cadre d'une démarche conjointe avec le Niger doivent être l'occasion de porter des politiques ambitieuses de développement pour les migrants et pour les États, a expliqué Bernard Cazeneuve après s'être entretenu avec le président nigérien Mahamadou Issoufou. La milice Shebab a capturé deux bases appartenant au gouvernement dans la région du Bachabel en Somalie. C'est ce que signalent des responsables locaux. Le gouverneur du Bachabel, Abdulkadir Mohamed, a dit à la Voix de l'Amérique que des miliciens lourdement armés ont lancé des attaques contre les villes d'Adegoulé et de Moubarak tout vendredi. Ces localités sont situées à environ 75 km à l'ouest de la capitale Mogadiscio. Plusieurs soldats gouvernementaux auraient été tués au cours de l'attaque. Le gouverneur a dit qu'il mobilisait ses troupes pour reprendre le territoire.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Plusieurs centaines de migrants en perdition ont été secourus ce vendredi au large de l'Indonésie. Parmi eux, on compte notamment de nombreux Rohingyas, membres d'une minorité musulmane de Birmanie, figurant parmi les plus persécutés du monde, d'après l'ONU. Jusqu'à 8000 personnes, Salwa Jaafari, dérivent ainsi en mer, menacées de mourir de faim ou de maladie.
Le Rafio était en perdition depuis deux mois. À son bord, 300 personnes affamées, exténuées. Un drapeau noir flotte sur son mât en signe de deuil. Une dizaine de passagers sont morts en route. Leurs cadavres ont été jetés dans l'océan Indien. La mer d'Andaman s'est transformée en une Méditerranée de l'Asie traversée par des groupes toujours plus nombreux de migrants musulmans venus principalement de Birmanie, parfois du Bangladesh, dans l'espoir d'une vie meilleure en Malaisie ou en Indonésie.
Je ne veux pas retourner au Bangladesh, nous sommes très pauvres.
La Thaïlande, de longue date accusée de laisser faire ce trafic d'êtres humains sur son territoire, vient de réagir en convoquant le 29 mai un sommet d'urgence avec une quinzaine de pays concernés. Phil Robertson, directeur adjoint de Human Rights Watch, Asie, explique.
Il faut qu'il y ait une concertation entre les gouvernements. Il faut arrêter de jouer un ping-pong humain avec les gens et leur permettre d'accoster.
Entre-temps, la proposition du gouvernement thaï de construire des refuges pour les rescapés déchaîne déjà l'hostilité des populations locales qui n'ont nulle envie de cohabiter avec ce qu'ils considèrent des parias.
Toujours dans le cahier international, en Israël, le nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou, l'un des plus à droite de l'histoire du pays. Monsieur Netanyahou a finalement obtenu hier soir, par la plus étroite des marges, la confiance du Parlement pour son gouvernement. Lors du premier conseil des ministres, il s'en est tenu à des propos assez vagues pour ne pas alarmer les capitales étrangères. Au même moment, le président américain Barack Obama émettait un signal clair en affirmant qu'une solution à deux États et donc la création d'un État palestinien coexistant avec Israël était absolument cruciale. Les djihadistes du groupe État islamique ont lancé une série d'attaques sur plusieurs fronts dans la province clé d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak. Dans leur dernière tentative en date de reprendre l'initiative sur le terrain, les combattants du groupe ultra-radical sunnite, qui contrôle une grande partie de cette province, ont pris depuis hier le contrôle de nouveaux secteurs Ramadi, son chef-lieu, mené des assauts près de Fallujah et se sont emparés de la petite localité de Djouba. À la faveur de leur offensive à Ramadi, Mahdi, les djihadistes ont avancé jusqu'à quelques mètres du QG provincial aux mains des forces gouvernementales, douchant les espoirs du pouvoir d'une reconquête de la ville. Et pour terminer, triste nouvelle, le roi du blues, B.B. King, est mort. Le guitariste américain est décédé hier soir à l'âge de 89 ans. Voilà, point final à ce journal. Rendez-vous dans 50 minutes pour d'autres infos. C'était Jacques Aristide à Washington. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info.